Cannes a ses rituels. Une fois la France traversée, l'escale familiale de circonstances passée, la tête dans les méandres du festival commence à bouillir et préparer, appréhender. Code récupéré, je peux aller jeter un œil sur la billetterie, tout semble déjà pris d'assaut. Aucun film disponible à part le 18 mai à 9h du matin éventuellement, ou alors sinon peut-être le 21. Le 21 mai bien sûr. Ok, la collègue italienne vit la même angoisse. But now I'm realizing everything is booked. Émoticône horrifiée, m'envoie-t-elle. L'année dernière, il arrivait souvent que les films semblent complets, puis qu'en réalité, ils ne le soient pas ouverts à la réservation et que soudain, quelques billets se libèrent. On verra. Se concentrer, prioriser. Déjà, tout à l'heure, conférence de presse avec peut-être Forest Whitaker. Ah non, pas du tout, avec Thierry Frémaux, c'est déjà bien. Je ne serais pas venue pour rien. Alors on reprend, dans l'ordre. Aller au palais, chercher à la gare maritime, ça a changé d'emplacement. Le badge d'accréditation et le catalogue maintenant payant. Flûte, il n'y en a plus ou pas là, ça y est, on ne nous le donne plus. Bon, je récupère les clés d'appartement que j'ai louées à 14h, la conférence de presse est à 15h30, le site du festival à 15-20 minutes à pied, enfin, ça semble jouable. Cannes rime souvent avec attente, coup de soleil, rencontre, imprévu. Cette année à Cannes, il y a aussi des plantades informatiques, les hackers patentés qui tentent de subtiliser 100 000 billets en quelques secondes. Avec tout ça, les files d'attente sont les mêmes. Mêmes demandes, mêmes interrogations, restées sans réponse. Et quand on se reconnaît, sans trop savoir pourquoi. On parle de cinéma, comme ça. Tiens, bah oui, c'est un journaliste. En fait, c'est surtout un cinéphile. Et on est tous là pour ça. Soudain, en quelques secondes, la même passion nous réunit. Ici, on mange cinéma, on boit cinéma, on parle cinéma et on attend cinéma. Demain, peut-être que j'irai au cinéma. En attendant, j'ai aimé écouter Thierry Frémaux, le directeur général du festival, nous parler de cinéma, poser des questions de cinéma, de l'évolution du cinéma et du regard que l'on a sur le monde grâce au 7e art. Montage en cours pour demain. Je retiens une phrase lâchée comme ça. Si tu n'as rien à dire, raconte-le. Fais du cinéma. Bonjour à vous, bonjour à tous, Anne Hdérien, Hdérienne. D'ici d'aujourd'hui, de demain, ça y est, le vrai Cannes, c'est aujourd'hui, enfin non, c'était hier, mais ça y est, je prends mes marques et je suis là avec vous sur le mix des cultures, bien sûr, pour partager chaque instant et progressivement, même film par film, quelques moments d'émotion. Donc hier, nous étions invités, oui, c'était une grande première, en ma première conférence de presse, nous étions invités à écouter Thierry Frémaux, et c'est l'expérience que je n'avais pas, l'apprentissage et donc les erreurs. 1. Enregistrer des petits fichiers si je veux pouvoir les monter derrière. Tant pis, ma chronique restera la mienne et peu de son extérieur j'inclurai. 2. Prendre des notes quand même en même temps que j'enregistre, ça peut être bien. Ce qui suppose, leçon numéro 3, avoir fait sinon le plein de batterie, au moins avoir prévu un câble pour pouvoir brancher mon téléphone quelque part. Sur mon téléphone, j'ai ma vie, ne pas partir sans câble. Premier jour, donc premières angoisses et tout, bref, j'ai eu mon accréditation, mais je n'arrive pas à avoir de films, quand je dis à avoir de billets pour aller voir des films, donc à réserver. Bref, j'ai été acceptée sur la conférence de presse de Frémaux, c'était déjà ça. Ok, il restait des sièges, c'est sans doute pour ça. Bref, ma première conférence de presse cannoise vaut bien que je vous la partage. Donc au début, on s'installe, et puis l'attaché de presse demande s'il y a des questions dans la salle, et elle distribue. Toi, tu seras donc la une, à toi la deux, etc., etc. Les journalistes arrivent, et s'installe Thierry Frémaux. La réponse qui fait mal. Pardon, mais ce n'est pas une école de journalisme ici, c'est une vraie conférence de presse, on attend des vraies questions. La question qui fatigue, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans la sélection ? C'est-à-dire que si on prend le problème à l'envers, il y a des pays, pour rappel Cannes Festival International, il y a des pays où il n'y a pas de réalisatrice. À l'inverse, 4 films français, 1 film d'homme. La question aurait pu être, pourquoi y a-t-il si peu de réalisateurs français ? L'année dernière, tous les prix ont été remportés par des femmes. Néanmoins, la question est intéressante. Décide-t-on de favoriser les réalisatrices ? Si on décide de faire 50-50, quel est le dogme ? Quelle est la règle ? Comment fait-on ? Est-ce qu'on doit aujourd'hui décider de ne pas sélectionner un film parce qu'il est réalisé par un homme ? Concernant jury et intervenants, le festival est entièrement paritaire. On a du mal à avoir un débat normal sur le sujet, pourtant il le devrait. Vous devriez, dit Thierry Frémaux à nous tous journalistes, évoquer les progrès. Une nouvelle vague de femmes est en train d'arriver en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne. Allez regarder ce qu'elles font, parlez-en. Ici, certains hommes ont dit comment, dans votre sélection de films français, trois femmes et un seul homme. Mais cette question, nous ne devrions pas la poser seulement en mai sur La Croisette, mais dès janvier, partout en France. La question énorme, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui fait cinéma? Pour vous, chers auditeurs, un film Festival de Cannes, c'est quoi? Qu'attendez-vous d'un film qui va à Cannes? À quoi doit-il ressembler? Y a-t-il des petits ou des grands films? Y a-t-il des films d'hommes ou des films de femmes? Oui, il arrive un peu que le Festival de Cannes se trompe. Mais là, on entend Chabrol qui disait « il y a 5 films dont je ne suis pas très fière ». Ah bon, lesquels? Ah non, ça je ne peux pas le dire. Ben voilà, vous ne savez pas quels sont les films qui ont été refusés. Alors vous ne pouvez pas savoir où le Festival s'est trompé. Mais le Festival est très fier des films qu'il a sélectionnés. Parfois, il y a des films qu'on aime bien, dit Thierry Frémaux, mais qu'on ne sélectionne pas. Parce que on entend souvent « on ne vient pas à Cannes pour voir ça ». La question politique, la Russie, l'Ukraine, certains demandent chaque jour au festival de boycotter entièrement la Russie. Thierry Frémaux comprend cette demande de soutien absolu. Mais il y a aussi des réalisateurs qui ont fui leur pays pour ne pas soutenir les choix politiques. Il y a aussi des journalistes russes qui essayent d'être indépendants. Donc, le festival a choisi de refuser les liens avec la presse officielle, les médias officiels. Par ailleurs, le festival a programmé en dernière minute, Mariupolis 2, le dernier film du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, tué début avril à Mariupol, en Ukraine. Donner la parole à ceux qui ne l'ont plus, laisser le cinéma être cinéma. Le festival a toujours été engagé, il a aussi toujours été la fenêtre sur le monde entier, un moyen d'apercevoir le climat international. La question qui tue le festival, et nous aussi, journalistes et publics. Pourquoi cette billetterie en ligne est si... Concerning tickets, Thierry Frémaux a oublié qu'il répondait en anglais, pris par sa spontanéité. Last year, we had some problems, the two first days. But we had a much better system last year. Rire de l'Assemblée. Much more strong. Bref, oui, un nouveau système a été mis en place et l'année dernière, il semblait présager de meilleures accessibilités. Bon, ça, à la limite, en fait, je crois que nos auditeurs s'en moquent. Facile ou pas facile de voir des films à Cannes? Mais non, ça ne l'est pas. Mais c'est notre job. En revanche, l'inattendu a fait exploser le système. De gentils hackers ont tenté de voler 100 000 billets d'un coup en une fraction de seconde, qu'il a fallu récupérer, bien entendu. En effet, je vous confirme que c'est assez étrange d'arriver ici, à Cannes, après avoir traversé la France, donc 12 heures de route, et de se retrouver avec aucun film à voir dans l'agenda. Bref, tout s'arrange. Bravo aux informaticiens. Nous allons donc pouvoir travailler pour vous, chers auditeurs. La question de la censure? Ah oui, elle a été posée. Pas pour nous à la radio, mais pour la presse écrite. Non, il n'y a aucune autocensure, ni censure tout court, au festival. En revanche, bien sûr, pour éviter la langue de bois, c'est le jeu de la libre expression. Échangeons. En ce qui concerne l'écrit, il est préférable d'avoir un phrasé plus adapté, un style plus élégant. Alors oui, Thierry Frémaux demande à l'écrit de pouvoir relire et donc de corriger ses propos, non pas pour corriger le fond mais la forme. Nous ne sommes pas concernés sur HDR, mais la prochaine fois, s'il y en a une, promis, je vous ferai un vrai reportage, un vrai montage avec la voix du directeur général du festival et tout et tout. C'était une longue chronique, je suis désolée, mais elle m'a semblé nécessaire parce que le cinéma, ça soulève tout ça. Et plus encore, mais j'ai fait mon choix, je vous jure. Allez, amis HDRiens, à tout à l'heure, à plus tard, bonne journée. Amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, surtout d'ici, d'ailleurs. Et de demain, nous sommes ici au Festival de Cannes et là, je viens vous rendre compte d'un film que j'ai plutôt aimé. C'est étrange, c'est un film assez étrange, assez fort, assez puissant, un peu bestial. Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, sorti le 20 juillet 2022. Ou comment raconter que nos terres nous bestialisent? Comment parler de transmission, d'histoire qui font l'histoire qui fait le territoire? L'image parle rude et bestiale, presque sans adjectif, à peine s'il y a un verbe. L'image est le froid, la gadoue, les doigts sales. Mais l'image est aussi parsemée de rayons de soleil. Ces rayons, c'est l'amour qui les envoie, qui les fabrique et les sème, mais très subtilement. Comme si l'amour devenait le terreau de l'avenir. Facile à dire et à écrire, mais à filmer. Comment raconter tout ça en faisant vivre par le creux, en laissant l'absence résonner et sans jamais laisser la peur fragiliser? Un couple est venu s'installer en Galice pour une vie d'agriculteur bio, engagé. Sur cette terre, les petits Français étaient tolérés comme des amuseurs de quartier. Mais un jour, une pétition dévoile qu'ils ont eux aussi du pouvoir, autant de pouvoir que les anciens, autant de pouvoir que ceux qui sont nés et qui mourront sur cette terre de Galice. Le film
ne parle finalement pas de ça. Oui, c'est le récit qui sert de prétexte à nous parler de transmission et de cette bestialité que nous avons en nous. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Traversée par la lassitude de connaître le déroulement, de ne pas être surprise du récit, par l'ennui prématuré, de ne pas être surprise et de ne pas être émerveillée, si j'ai regardé ma montre, oui, je l'avoue, je n'ai pas été tentée de sortir, malgré l'estomac tiraillé par la faim. Et bien m'en a pris. Marina Foïs confirme son talent de caméléon. Honnête et généreuse comédienne, elle sert son personnage sans faille. Et le film bascule avec elle. Et le sens prend sens grâce à elle. Un film à voir. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes de Cannes, d'aujourd'hui, de Rouen, de partout en fait. Innocent de Louis Garrel, sorti le 12 octobre 2022. Louis Garrel est charmant, pétillant, fantaisiste, facétieux. Il est aussi un peu, beaucoup, français, intello, et n'a pas peur de plonger dans les scénarios alambiqués. Le problème, c'est que le manque de crédibilité fait perdre de la crédibilité quand crédibilité il y a potentiellement. En même temps, faire du cinéma, c'est raconter une histoire, et la crédibilité n'a pas grand-chose à voir. Oh, je crois que j'éprouve un peu vos oreilles, non ? Eh ben, c'est un peu ça. Au bout d'un moment, le temps passe et on changerait bien de chaîne, mais on est au cinéma. J'aurais aimé, aimé. J'ai passé un moment léger, j'ai aimé voir Anouk Grimbert qui fait du Anouk Grimbert, voir Roche Dizem très crédible dans son rôle de Tolar. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé Noémie Merlan. Plus que pétillante, elle est vivante, bouleversante, émue et émouvante. Elle est feu d'artifice, un peu la fille de Grimbert, puis à nouveau elle, surprenante. À part ça, allez, le pitch. La mère d'Abel se marie, encore une fois, avec un futur ex-détenu. Le monsieur est vite soupçonné par le gentil fils qui veut protéger sa maman. Sur le papier, personnellement, je ne serais pas allée voir le film. Le sujet ne me séduit pas, j'y pressens un peu à raison. Le cordon pas coupé, le dip pas réglé et... Bref, si vous aimez le cinéma français, si vous aimez la comédie française, si vous aimez le style de Garrel, vous y prendrez du plaisir à n'en pas douter. Je ne dis pas que je n'en ai pas pris du tout. Je dis juste que si vous avez besoin d'y croire, d'être embarqué, d'être bluffé, d'être retourné, ben non. Alors sinon, quand même, oui, oui, d'accord, c'est un joli film. Mais a priori, il y a des chances pour que je l'oublie vite. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens, HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, de Cannes, de Rouen, de Normandie, d'ailleurs, de partout. Et surtout de demain. Coupé de Michel Hazanavicius, sorti le 17 mai 2022, et donc moi j'ai eu la chance de le voir hier, enfin non, c'est pas vrai, j'ai eu la chance d'en voir un bout hier au cinéma, sur l'ouverture du Festival de Cannes. Un univers coloré, voire saturé, le ton est donnée par l'image, à n'en pas douter. D'ailleurs, elle est vraiment stylée. L'image dans l'image, le fake dans le fake, étaient les prix qu'ils croyaient prendre. Bon, au jeu du faux-semblant, on ne sait finalement plus si on a vraiment mal, sauf mes oreilles. Le cadreur est aussi tellement vivant que finalement, le quatrième mur, comme on dit au théâtre, est brisé. Le type même du récit est entièrement désamorcé. Ce n'est pas sans me rappeler le projet Blair Witch. Le cadreur essuie l'objectif d'une giclade sanguinolente, puis tombe et se relève après quelques secondes. Le réalisateur apparaît, disparaît, réapparaît, toujours aussi démesurément cinglé. Parfait. On reconnaît des allusions aux citations cinéma ou citations cinématographiques. On reconnaît la prouesse des acteurs qui jouent à jouer faux. Et si on voit bien qu'ils tournent en rond dans leur décor et qu'il ne faut surtout ni chercher à y croire, ni chercher à comprendre, malheureusement, trop de cris tuent le cri et mes oreilles n'ont pas su résister. Elles criaient, elles aussi. Au secours, ça crie trop. Alors je suis sortie. Pourtant, j'aurais vraiment aimé savoir ce qui se passe après. Mais vraiment, j'ai pas pu, c'était physique. Tant pis pour moi, navré pour vous, puisque je ne suis pas vraiment en mesure de vous en parler, je me suis donné rendez-vous quand il passera à la télé. Là, je baisserai le son, j'irai à 35 minutes et je découvrirai la suite. Alors oui, effectivement, je n'ai pas eu envie de rester pour rester, quoi. Et puis d'ailleurs, j'ai pas envie de revoir le début non plus. C'est pas trop mon truc. Mais je suis très curieuse. J'y suis allée par pure curiosité et j'y retournerai pour la même raison. J'en profite pour rappeler aux exploitants que plus vous montez le son, plus vous nous assourdissez, plus il faudra monter le son et plus nous ouvrons le marché aux boucles magnétiques. Pourquoi pas ? D'ici à ce que vous soyez tous équipés tout de même, baissez le son. Et sans peur de spoiler, amis HDRiens, HDRiennes, amis FB, amis Insta, dites-moi la suite. Comment s'en sortent-ils avec tout ce sang et tous ces cris ? Bon sang ! Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens d'aujourd'hui, d'ici, de demain. Nous sommes à Cannes, toujours mercredi 18 mai, c'est la quatrième chronique expérience. Mercredi, debout 6 heures pour écrire les chroniques d'hier, la cérémonie d'ouverture et la critique du film vu à moitié ou à moitié vu. Interview radio HDR avec Mosquito et départ 8 heures surtout pour être dans la file d'attente de la salle de Bussy, projection à 9 heures. Au programme du jour, un film-série ou une mini-série devenue film, ça fait 5 heures. Quand on dit long métrage, c'est en effet un peu long. Mais qu'un peu. L'expérience se vit et se partage avec une salle émue. Puis, de 15h à 21h30, c'est l'errance. Juste une critique, une chronique à écrire, dormir un peu, histoire de se sentir en forme, laisser l'expérience du matin, jour, parce que c'est quand même long, de 9h à 15h, infuser, changer de film pour la soirée, se doucher, il fait vraiment très chaud ici, et repartir en piste. À la question qui m'a été posée ce matin, alors, le ton général, l'ambiance, les influences de l'année, au bout de 5 films, j'ai une réponse. Elle ne sera peut-être pas la seule, mais c'est déjà ma remarque, et je n'en suis pas tellement étonnée d'ailleurs. L'image dans l'image, le vrai, le faux, la puissance du fake, la puissance de la trace, la manipulation et le sens du pouvoir, et tout ça c'est un petit peu la même chose, sont les points communs de ces 5 films. Préoccupation internationale, quand on a eu Zelensky en ouverture, en visio, et que l'on sait l'utilisation de l'image en Russie et en Chine, la question mérite bien quelques films. Bonjour à vous, bonjour à tous. Expérience du jour, je vous l'ai évoqué déjà dans une chronique et j'y reviens. Esterno notte, ça veut dire extérieur nuit en italien. C'est en fait ce qu'on écrit dans un scénario. On précise une scène en disant si elle est intérieur jour, intérieur nuit ou extérieur nuit. Bref, là c'est le titre du film de Marco Bellocchio. C'est une série télé en fait, donc je ne peux pas vous donner de date de sortie, pardon. C'est un film de 5 heures, en fait c'est une série télé ou une mini-série télé en 6 épisodes, ou l'inverse, ou les deux à la fois, parce que franchement ça fonctionne. Commençons par l'impression de base et attendu, oui, c'est un petit peu long. Oui, il aurait peut-être gagné à resserrer un peu, mais en fait très peu. C'est un film politique qui traite d'un traumatisme traversé par l'Italie en 1978. Déjà, a priori, moi je suis conquise et tout y est pour m'intéresser. Mais Marco Bellocchio y ajoute les points de vue, celui du défunt, encore vivant, celui du poulain, celui de la femme, celui du pape, celui des terroristes. Il lui fallait donc tout ce temps. Et encore une fois, il aurait pu retirer quelques toutes petites minutes, mais guère plus. Au mieux, il aurait peut-être pu faire 4h30. Donc on ne touchera pas à la durée, ça n'a pas de sens. Le traumatisme du poulain, le soi-disant meilleur ami, le fils politique qui est tellement paniqué qu'il donne un accent fortissimo et distant, et le temps et les événements, et réinvente la scène, et s'il n'était pas mort. Mais non, Aldo Moro est bel et bien mort après 55 jours de détention. Pourquoi voir ce film-série ou cette série-film? Pour l'histoire, pour la politique, pour l'Italie, pour l'empathie, pour comprendre aujourd'hui, c'est du Rital comme on aime. Viva l'Italia! Bonjour à vous, bonjour à tous. Allez, la chronique du 19 mai, presque en direct, enfin en direct de Cannes, mais c'était le 19 mai et on n'est plus le 19 mai. Backstage, journée qui commence curieusement par les coulisses, parce que notre premier film est à l'intérieur du palais en projection presse, il n'est donc pas indiqué sur le programme. Et en même temps, un film va bientôt commencer, mais au Grand Théâtre. Bref, pour ceux qui connaissent, il suffit de se représenter évidemment les lieux, et pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, imaginez que c'est quasiment la même entrée, sauf que bah, pour aller à l'intérieur du palais, il faut passer par une autre porte. Alors donc tout est bouclé. Mais moi, je voudrais bien aller au 5e étage du palais, donc passer par une porte qui me permette d'y accéder. Faites le tour, me dit-on. Bien, ben je m'y emploie. Une fois là-bas, précisons que faire le tour, ça se fait pas en claquant des doigts. Faites le tour, je fais le tour, et une fois là-bas, rebelote. Je me faufile et me refaufile. On m'empêche de passer, mais je passe ailleurs. Entrée des artistes. Eh ben ok, le tout c'est de s'y retrouver. Se laisser guider et ne pas douter. 5e étage, film superbe. Documentaire saisissant. Je suis ravie, je suis heureuse d'avoir pu voir For Sake of Peace.
J'aurais vraiment aimé en parler avec les réalisateurs, mais pas de conférence de presse. On continue le périple dans les boyaux du palais, dans les coulisses du marché. C'est le directeur technique qui nous accueille, Alain Surmulet. Ici, il gère 26 écrans, juste au palais. Hein. Le Festival de Cannes, ce n'est pas que ces 26 écrans-là. Et juste au palais, il y a 26 écrans, 720 films en tout, et 150 films par jour à envoyer. Naturellement, c'est sans compter qu'il faut parfois préparer les films en version diffusable, projetable, sur grand écran, en très gros format, et les vérifier avant et après les autres projets. Projection. Un bug technique sur une diffusion simultanée, pourquoi pas? Mais pendant un film, c'est assez impensable. Ils sont une équipe de 6 à 8 projectionnistes et à faire tourner tout ça. Humour et bienveillance y riment avec ambiance festivalière. Le festival va bientôt battre son plein. Dans les coulisses, j'ai découvert d'autres entrées des artistes. Et pour finir, avec la femme de Tchaïkovski, dont je ne soupçonnais pas l'existence. Le cinéma, c'est aussi ça, apprendre sur le monde. Finalement, ce n'était qu'une journée à 16 000 pas. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiens et HDRiennes d'ici, d'aujourd'hui, de demain, de Cannes. Pour l'instant, nous sommes encore à Cannes. Sixième chronique, nous sommes le 20 mai, dans la vie. Le cinéma s'inscrit dans la vie et nous y plonge. À nous de choisir le regard que l'on accepte de poser. Un film finlandais à l'humour trop froid que je trouve diablement décalé, mais là, trop décalé pour moi. La salle rit, c'est bien agréable d'ailleurs de les entendre. Moi, je ne ris pas. Et ma nuit, un peu chahutée, menace de s'imposer ici, là, sur ce fauteuil de la semaine de la critique. Non, je n'ai pas envie d'offrir ce spectacle potentiellement sonore à mes voisins. Je m'éclipse. Tant pis pour la Finlande. Quand tu vas voir Mariupolis 2 et que tu fais la queue avec une journaliste russe, une journaliste qui nous confie à un confrère américain et moi-même que nous ne mesurons pas, nous, Européens, combien c'est horrible. Elle a des amis qui ont été arrêtés avec des pancartes, des feuilles A4, vides. Tenues dans la rue, un simple papier et le tenir dans la rue, un simple papier et le brandir, même s'il est vide, même si la feuille est blanche, peut mener en prison. Elle raconte également que des amis, à elle, ont été arrêtés, emmenés en prison, juste pour avoir mimé de tenir une pancarte. Les mesures gouvernementales sont dures pour le peuple, mais pas pour le gouvernement, dit-elle. On s'en doutait un petit peu, mais que faire? Et oui, les gens sont vraiment, vraiment manipulés. J'ai posé la question. 12 chaînes de télé diffusent de fausses informations nuit et jour. Voilà. En entrant dans la salle, le confrère américain et moi-même sommes soufflés, impressionnés de sa présence. Surtout là, maintenant, alors qu'elle vient voir avec nous Mariupolis 2. J'ai déjà l'émotion dans la gorge et les yeux humides. Le film me laissera un peu plus dubitative, mais s'il nous offre de vrais moments de cinéma, la question de l'écriture du film me travaille. C'est une journée à 5 films avec de l'imprévu, de l'inattendu. Elle ira plutôt crescendo. Le Japon nous offre un regard sur la fin de vie et les 2 films suivants également. Bah, drôle de journée qui parle de la mort dans toutes les langues. J'ai pourtant commencé en parlant de la vie. Hasard de calendrier, la Finlande parlait de meurtre à la hache, de meurtrier à la hache. L'Ukraine d'un génocide. Plan 75 de l'euthanasie. The Stranger, un film australien d'un meurtrier retrouvé. Et nous finirons en France avec Dominique Moll et La nuit du 12, une affaire non élucidée. Déprouvante, elle est devenue terrifiante cette journée. Mais elle m'a finalement bien tenue éveillé. Toujours en direct du festival, nous sommes le 21 mai, c'est la 7e chronique, du rire aux larmes. Commencez par un film documentaire où la question de la politique est sous-jacente, où la question d'un soulèvement citoyen prend une ampleur énorme. C'est troublant, confondant, bouleversant. Ce matin, pour ce moment, puissance de la censure. Dans les champs publics, pas simple, les journalistes qui, s'il est passionné de cinéma, n'en mange pas moins une quantité telle que l'exigence refroidit les plus enthousiastes en général. Nous avons applaudi. Et nous sommes prêts pour le générique de fin. Après cette claque que je me demande, j'ai porté vous, je reste, et plus encore. Je pleure et je ris et je suis émerveillée. Le petit Nicolas aura eu raison de moi. Cédant à ma joie, je décide de donner un avis à chaud comme ça avec le selfie de circonstance. Allez, c'était l'idée du jour. Rapido, sans marchant, je poste mes ressentis. Je n'ai pas le temps de traîner. Il faut que j'aille dans une salle de cinéma qui se situe à 20 minutes d'ici en voiture et la voiture est à 20 minutes. Il y a bien d'autres moyens de transport, c'est sûr. Mais j'ai peur de perdre du temps puisqu'il m'est compté. Je cours, je vole et me voici au frais dans cet immense complexe pour voir Armageddon Time. J'en sors dubitative. Je rate le film suivant. J'attendrai tranquillement en me mettant à jour dans mes chroniques et critiques et me préparerai pour le dernier film du jour à 21h. J'irai revoir Paris. L'envol de Pietro Marcello. La sortie est indéfinie encore aujourd'hui. C'est un film que j'ai vu dans le cadre de l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, donc à Cannes. Eh bien, je suis bien embêtée. J'aurais vraiment aimé apprécier le film. Il est soutenu par la région Normandie. Mais je vais être en mal de mots doux. Alors, j'ai vu un patchwork et je n'ai pas reconnu le pitch. Le temps passé à raconter le passé de cette jeune fille pour nous faire comprendre ce qu'elle sera devenue grande, avec cette histoire de magie dans la tête, bon, c'est comme si on voulait m'obliger à y croire à coup d'images d'archives. Le décalage des images est surprenant, d'où ma sensation d'effet patchwork, comme un goût de faux, de mal joué, de mal je ne sais quoi, de pas juste. À plusieurs niveaux d'ailleurs. À part l'acteur, le rôle principal, Raphaël Thierry, qui est puissant. Certes, Louis Garrel est très juste lui aussi, mais son personnage l'est moins. Bref, la magie n'a pas pris. Bonjour à vous, bonjour à tous, amis HDRiennes, d'ici, d'aujourd'hui, de demain, de Cannes, surtout, je ne sais pas si vous entendez autour de moi le bruit, les brouhaha même de l'ensemble, là je suis sur la terrasse des journalistes et donc ça donne directement sur la rue et il y a du passage. Mais je sors d'un film dont je tiens absolument à vous parler, Les huit montagnes, de Charlotte van der Mirsch et Felix von Groningen. Sorti le 21 décembre 2022. Donc le film, c'est... Comment dire ? Ils ont créé une route pour que les gens viennent et en fait, tout le monde est parti. Peut-être que le film se résume à ça, vu de ceux qui sont restés. Alors parfois, il est un peu long. Souvent, il est émouvant. Là où il reste surtout très troublant, c'est qu'il me laisse l'impression qu'on aurait pu voir trois films différents. Un film sur la vie, la philosophie de la vie, au moins deux façons de la vivre, justement, de la traverser. Un film sur l'amitié, la puissance de l'amitié au-delà du temps, cet amour inconditionnel qui n'a pas besoin d'être nourri. Un film sur la transmission, le rapport à la terre, le rapport au père. Oh, y aller, on pourrait même ajouter, mais ça peut peut-être faire partie du film sur la philosophie de vie, un film sur la notion du territoire, plutôt urbain ou plutôt rural. Vous l'aurez sans doute compris, un film riche, mais du coup un peu long. Deux jeunes garçons d'univers différents se rencontrent et très vite, l'amitié prend vie. D'ailleurs, finalement, ils deviendront frères sans jamais se le dire. Je retiens ces phrases assez percutantes. Si les mots sont pauvres, les pensées le sont aussi. On trouve sa place dans le monde de manière moins imprévisible que ce que l'on croit. Je retiens cette image qui revient et qui parle, qui me donne envie de résumer. C'est un film qui ouvre une fenêtre sans fenêtre, un cadre, petit cadre, sans filtre, sur la vallée immense. Bref, amis HDRiens, HDRiennes, vous l'aurez compris, en décembre, faites-vous plaisir, allez au cinéma.
Cannes a ses rituels. Une fois la France traversée, l'escale familiale de circonstances passée, la tête dans les méandres du festival commence à bouillir et préparer, appréhender. Code récupéré, je peux aller jeter un œil sur la billetterie, tout semble déjà pris d'assaut. Aucun film disponible à part le 18 mai à 9h du matin éventuellement, ou alors sinon peut-être le 21. Le 21 mai bien sûr. Ok, la collègue italienne vit la même angoisse. « But now I'm realizing everything is booked », émoticône horrifiée, m'envoie-t-elle. L'année dernière, il arrivait souvent que les films semblent complets, puis qu'en réalité, ils ne le soient pas ouverts à la réservation et que soudain, quelques billets se libèrent. On verra. Se concentrer, prioriser. Déjà, tout à l'heure, conférence de presse avec peut-être Forest Whitaker. Ah non, pas du tout, avec Thierry Frémaux, c'est déjà bien. Je ne serais pas venue pour rien. Alors on reprend, dans l'ordre. Aller au palais, chercher à la gare maritime, ça a changé d'emplacement. Le badge d'accréditation et le catalogue maintenant payant. Flûte, il n'y en a plus ou pas là, ça y est, on ne nous le donne plus. Bon, je récupère les clés d'appartement que j'ai louées à 14h, la conférence de presse est à 15h30, le site du festival à 15-20 minutes à pied, enfin, ça semble jouable. Cannes rime souvent avec attente, coup de soleil, rencontre, imprévu. Cette année à Cannes, il y a aussi des plantades informatiques, les hackers patentés qui tentent de subtiliser 100 000 billets en quelques secondes. Avec tout ça, les files d'attente sont les mêmes. Mêmes demandes, mêmes interrogations, restées sans réponse. Et quand on se reconnaît, sans trop savoir pourquoi. On parle de cinéma, comme ça. Tiens, bah oui, c'est un journaliste. En fait, c'est surtout un cinéphile. Et on est tous là pour ça. Soudain, en quelques secondes, la même passion nous réunit. Ici, on mange cinéma, on boit cinéma, on parle cinéma et on attend cinéma. Demain, peut-être que j'irai au cinéma. En attendant, j'ai aimé écouter Thierry Frémaux, le directeur général du festival, nous parler de cinéma, poser des questions de cinéma, de l'évolution du cinéma et du regard que l'on a sur le monde grâce au 7e art. Montage en cours pour demain. Je retiens une phrase lâchée comme ça. Si tu n'as rien à dire, raconte-le. Fais du cinéma.